Du 2 au 8 avril, c'est Utilité publique, thématique de la grenouille, en partenariat avec l'Accès, Messe-Basse et chezalbert.fr. En semaine, à 9h30 et 18h, et tout au long du week-end. Bonne écoute!
Du 6 au 16 octobre 2011, la grenouille était en vadrouille à Bordeaux, à l'invitation d'Evento, Biennale internationale d'art urbain. Voici de larges extraits d'un des plateaux radio que nous avons réalisé à cette occasion, qui portait sur les enjeux de la démocratie locale et de la participation citoyenne. Parmi ces enjeux, la réhabilitation d'une salle des fêtes dans la cité Le Grand Parc. À l'issue de la rediffusion du plateau, nous retrouverons Stéphane Marolo, directeur du centre social Le Grand Parc, qui nous dira où en est ce projet aujourd'hui.
8e éventail d'Evento, aujourd'hui depuis la cité Le Grand Parc, d'où nous étions partis hier pour aller à Bègles via notre travelling radio. Enjeux, pratiques et méthodes de projets participatifs, un échange aujourd'hui non seulement de points de vue, mais surtout d'expérience et de réflexion pour que ces projets puissent coordonner leurs actions et porter haut et fort la parole des habitants aux oreilles de qui de droit. Sur ce plateau, Anne-Cécile Paredes du collectif Le Bruit du Frigo, Stéphane Marolo du Centre Social Grand Parc, Roland de Pinero, présidente de l'association Intensité, Geneviève Rando du collectif Bordeaux Nord, collectif de ressources culturelles, François Poujardieu et Isabelle Scharf du collectif d'associations réunis à la LD Douve. Comment des projets artistiques s'articulent avec des processus de participation citoyenne? Peut-être un premier axe de nos discussions. On va commencer avec Geneviève Rando. Peut-être quelques mots juste pour situer Bordeaux Nord, qui fédère acteurs sociaux et projets culturels. Et puis avec, par exemple, peut-être quelques mots pour commencer sur le jardin de ta sœur, Geneviève Rando.
Alors, bonjour. Le jardin de ta sœur, le collectif de ressources Bordeaux Nord sont les enfants d'autres actions qui ont été menées avant. J'insiste beaucoup là-dessus parce que la question de la participation et des actions collectives, ce n'est jamais une génération spontanée. J'insiste énormément là-dessus. C'est une posture de travail, c'est une posture d'attitude par rapport à des enjeux que repèrent à la fois des habitants, mais aussi des associations et des salariés dans ces associations et des administrateurs. Donc, c'est la conjoncture de plusieurs groupes d'acteurs qui vont coopérer autour de ce qu'ils ont identifié comme étant pour eux, à un moment donné de leur histoire sociale, un enjeu commun qui vaut le coup d'être défendu. Et c'est parce qu'on considère qu'un enjeu vaut le coup d'être défendu qu'on va trouver la manière de rentrer en discussion et en négociation. Donc, le collectif du Jardin de ta sœur, c'est le dernier né. 10 ans avant, il y avait eu le collectif Bordeaux Nord. Et puis, 20 ans avant, il y avait eu le collectif qui s'appelait le collectif Mieux Vivre sur la question de l'habitat. Et puis, il y a eu plein d'autres actions qui ont fait qu'à un moment donné, il vaut mieux se réunir pour agir quand on a les uns et les autres les mêmes questions qui se posent à nous.
C'est exactement le propos de ce plateau, de cette réunion. Je voudrais maintenant passer la parole à Anne-Cécile Paredes. On vient d'entendre à l'instant Geneviève évoquer cette question de la posture juste. Alors peut-être quelques mots à propos du bruit du frigo, justement sur cette éthique dans la relation aux habitants dans les processus de participation. Anne-Cécile Paredes.
Bonjour. Pour rebondir d'abord sur l'idée d'éthique, ça serait plutôt que nous, on commence des projets en faisant du terrain, donc en prenant du temps. Et cette notion de temps, elle est vitale, en fait. Et du coup, ça va être à la fois un handicap pour s'inscrire dans des processus qui, eux, sont beaucoup plus rapides, et à la fois un endroit où je rejoins Geneviève, qui est de l'ordre de la posture. Parce que si on ne défend pas ces endroits de temps, on ne va pas vraiment réussir à coopérer. Aujourd'hui, au moment de ce plateau, on se pose des questions à l'intérieur du frigo, parce qu'on a imaginé plein de manières différentes de faire coopérer des professionnels, mais aussi des usagers, donc des habitants, sur comment on aménage le cadre de vie. Il y a des histoires comme le jardin de ta sœur, qui sont des histoires qui font partie du cœur du frigo aussi, en tout cas qui ont été pour le frigo des moments d'initiation, d'expérimentation. Et puis après, on évolue aussi, puis on a tenté aussi de se dire quelles sont les conditions pour faire vraiment un projet participatif. Donc on se rend compte qu'il faut une énergie sur le terrain. Une énergie, ça peut être des acteurs, des habitants, en tout cas une volonté, quoi. Quelle qu'elle soit, qu'elle part du quartier. Et qu'à un moment donné, il va falloir aussi une volonté politique. Et que ça marche quand on arrive à coordonner les deux. Alors ces dernières années, on a aussi testé d'essayer de rentrer dans des quartiers où on avait l'impression qu'il y avait une volonté politique. Et puis on s'est confronté à une difficulté, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas comme il y a 15 ans, quand la concertation n'existait pas. Aujourd'hui, la politique publique, elle fait des concertations. Donc on se retrouve avec une difficulté supplémentaire, où aujourd'hui, c'est plus dire il faut prendre en compte la parole de l'habitant, parce que sinon, ils lui répondent très vite. Hein. Ils le disent, oui, on la prend en compte, on fait des processus de concertation, il y a 3 réunions qui sont faites. Mais c'est quelle relation et quelle chance on donne à que le projet se fasse, en fait. Et du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, on demande à un habitant de faire mieux qu'un architecte et un urbaniste. Un architecte et un urbaniste, ils travaillent pendant 3 ans, j'exagère, 3 ans, j'en sais rien, en fait, mais ils travaillent avec du temps sur un projet, un dessin, quoi, un projet urbain. Et puis, on va demander à un habitant de se réunir 4 fois et d'avoir des idées fantastiques et merveilleuses et d'en faire un projet. Donc, du coup, en fait, c'est pas vraiment un moment de travail qu'on propose avec des habitants ou des usagers. C'est un moment de communication. Et je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, dans notre travail, l'enjeu, c'est de prendre en compte cette nouvelle difficulté et plus dire il faut prendre en compte la parole de l'habitant. Mais comment on la prend en compte et comment on se donne les moyens, en fait ?
Comment on se donne les moyens et aussi comment on se donne le temps, cette dimension de la temporalité qui était évoquée là, elle est essentielle.
Parce que du coup, il va falloir... Les habitants, ils ont des professions, c'est des individus comme les autres, donc ça veut dire qu'il va falloir transmettre des codes, ça va être long, on va en perdre peut-être la moitié sur la route, mais de ce qui va rester, là, on va vraiment faire du projet urbain, quoi. Et du coup, c'est, je pense, en tout cas, moi, j'ai pas vécu le jardin de ta sœur, mais les garçons, ils en sont très attachés. Et ils racontent vraiment que s'ils ont réussi à ce moment-là, si le collectif a réussi, c'est qu'ils ont bossé comme des fous pendant 1 an et que quand ils ont proposé le projet face aux élus, ils étaient légitimes, mais ils étaient aussi... c'était juste, en fait. C'était un meilleur projet, en fait, que les projets qu'ils avaient contre, quoi. Donc le reste, moi, je n'ai pas participé, mais je crois que c'était un truc de promoteur. Et en fait, l'enjeu, c'est d'arriver à ça, c'est faire des meilleurs projets que ceux qui pensent pour nous, en fait, quoi.
Geneviève, peut-être en rebond, justement, comment ont réagi les élus à ce meilleur projet ?
Alors, 2 ou 3 éléments avant. Tout d'abord, la cheville ouvrière du travail du Jardin de ta sœur sur Bordeaux Nord, ça a été Jean-Philippe Lasfar qui est à côté de moi, là. Et je tiens à le présenter. Ce que je voudrais dire surtout, enfin, je pense qu'on s'en sera d'accord, Jean-Philippe, c'est que le collectif du Jardin de ta sœur est sorti l'année où on a fêté les 40 ans du centre. C'est pas par hasard. Et 10 ans avant, on remettait sur le tapis le fait qu'il y avait une friche qui servait à rien. Et pendant 10 ans, on a bataillé, on a signalé cette friche. Voilà, je tiens à dire ça parce que sinon, comment dire, on raconte que la fin des histoires ou leur début. Hein. Or, ce qui est intéressant, c'est de savoir quelle est la fiction sociale réaliste et pragmatique qu'on a été capable d'écrire ensemble. Sinon, on est quelque part, on perd la mémoire. Or, ce qui est important, sur la question, par exemple, de la temporalité, la question de la temporalité, c'est la question du temps de la transmission. Donc, j'insiste beaucoup là-dessus. Le collectif du Jardin de ta sœur donc, est une émanation de tout ce processus qu'on avait mis en place depuis 10 ans, que sur cette friche, mais qu'on avait mis en place depuis peut-être 20 ou 30 ans, sur cette approche, c'est de dire... Premièrement, les questions qui se posent à nous nous regardent et on ne peut en dire quelque chose. Deuxièmement, on est capable d'organiser un discours et des propositions de pratique autour de ça. On l'a eu fait avec l'habitat, on l'a eu fait avec plein d'autres choses. Troisièmement, c'est pas parce qu'au départ on est seul autour de la table qu'à la fin on sera toujours seul. Donc le jeu consiste non pas à travailler sur des logiques de concertation, mais sur les éléments constitutifs d'une négociation potentiel et qu'il faudra réussir. Là-dessus, je dirais qu'il y a 3 éléments. Premier élément, il faut qu'on soit pragmatique. Deuxième élément, il faut qu'on ait une posture commune. Et troisième élément, il faut travailler dans des logiques de loyauté mutuelle les uns avec les autres. Si ces 3 éléments ne sont pas réunis, j'ai envie de dire que ça ne peut pas fonctionner. Alors, c'est beaucoup de travail et c'est aussi comment, à un moment donné, quand vous vous adressez à quelqu'un dans la rue, Il n'est pas obligé de vous croire si vous racontez que vous allez faire quelque chose avec lui. Hein ? Inventer un truc. Donc, quand on rentre en négociation, il n'y a aucune raison, a priori, que celui qui est en face nous croit. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on fasse à chaque fois nos preuves. Ça veut dire qu'il faut qu'à chaque fois, on amène des billes par rapport à une question qui est aussi la question de celui qu'on a en face. Par exemple, si on prend le jardin de ta sœur, c'est toute la question des espaces publics dans une ville et de leur usage. C'est comment, à un moment donné, on passe du champ incantatoire, parce que c'est un champ incantatoire quand même, la question de la participation, comment on passe du champ incantatoire à sa réalisation. Et dès lors qu'on va proposer aux gens de prendre la parole, c'est poser un acte. Ce n'est pas fabriquer du discours. Parler, c'est fabriquer de l'action. Voilà. Et ça, ça me paraît important.
Quelque chose à ajouter, Jean-Philippe ? En deux mots.
Peut-être juste pour rebondir sur le travail qu'on a fait avec le bruit du frigo. À la suite des 40 ans du centre social, on avait terminé par un atelier d'urbanisme utopique. Et à l'époque, il y a un habitant qui a pris la parole, qui s'est levé et qui a dit qu'on était des doux rêveurs et qu'on rêvait que ce n'était pas la peine, ça n'allait jamais marcher. Voilà, juste pour la petite histoire, cette personne est un membre du collectif du Jardin de ta sœur, une personne extrêmement active et qui, voilà, au bout de 5-6 ans, a rallié, elle a pris le temps, mais elle est venue. Et effectivement, parce qu'on est sur un processus où on fabrique des choses, où c'est palpable, les gens arrivent à changer aussi d'opinion et être passés de l'autre côté, quoi.
C'est bien ça dont il est question, c'est justement de ces changements d'opinion, c'est d'arriver à opérer ces points de bascule. Comment s'approprier, au fond, un événement comme celui d'Evento pour infléchir le destin d'un lieu, le destin d'un quartier, le destin d'un espace, comme par exemple celui de la Halle des Douves ou bien du centre social Grand Parc. Alors peut-être pour la Halle des Douves, Isabelle, par exemple, ou bien François.
Bonjour, moi je représente l'association L'Halle des Douves, mais aussi une compagnie de théâtre qui s'appelle Prologue. Donc c'est un travail en amont qui s'est fait avec l'artiste Jeanne
Van Eeswijk.
Oui. Et l'idée qui se trame là au fur et à mesure, c'est comment faire renaître ce lieu qui a été abandonné depuis 85, mais depuis 75 aussi, il a été fermé, donc il n'a plus sa vocation de marché. Comment lui conserver cette raison d'être qui est quand même, c'est un lieu de résistance qui a bien vieilli, hein, quand on peut y revenir sans trop de difficultés. Et comment le réinvestir ? Comment lui redonner un espace de circulation ? Comment donner envie aux habitants de revenir dans cette halle et de se dire elle vous appartient. Ça, je crois que ça a été le questionnement à la fois de l'association de la Halle des Douves, mais aussi de Jeanne.
Alors Isabelle, justement, sur est-ce qu'au fond, ça a été efficace pour la Halle des Douves, ce passage de Evento ? Est-ce que ça a permis de repenser un petit peu le projet ? Il y avait eu quelques concertations plus ou moins efficaces qui avaient été menées entre les associations et puis la mairie. Peut-être que le passage de Jeanne Van Eeswijk et ce qui s'est déroulé au cours d'Evento a peut-être repensé, requalifié un petit peu le projet. C'est votre sentiment, Isabelle ?
Nous, il y a eu quelque chose de très agréable et très confortable, j'ai envie de dire. C'est que la démarche est vraiment venue de Jeanne. Elle s'est baladée dans le quartier, elle a flashé sur le bâtiment, elle a appris assez rapidement qu'il y avait un collectif qui existait autour de cette halle. Elle avait déjà bossé sur des marchés en Hollande, donc c'est un territoire qu'elle connaît, qu'elle aime. Nous, on n'oublie pas dans l'histoire que c'est un ancien marché. Le côté brassage, grouillage, bouillonnement du marché, c'est un peu ce qu'on essaye de reconstituer. D'ailleurs, on dit sans problème depuis le début de l'aventure que de la rencontre avec Evento, pardon, que c'est une préfiguration de ce que pourrait être la maison des associations. Donc nous, oui, c'est une super rencontre avec Jeanne, parce qu'elle est venue nous chercher et qu'elle nous a dit « moi j'aimerais faire quelque chose avec vous ». Et que nous, ça fait quelques années, 2007, que le collectif est vraiment soudé, mais qu'on ne sait pas toujours comment s'y prendre pour d'abord faire connaître le projet, rencontrer toutes les associations de façon exhaustive, c'est compliqué, même si on en parle beaucoup autant qu'on peut
tous les uns les autres dans les assos avec nos réseaux, nos contacts. On rencontre tous les jours au Capucin des gens qui nous disent « Ah, mais on ne savait pas qu'il y avait un projet de maison des associations. » Donc, toujours ce facteur temps hein, dont parlait Geneviève, Anne-Cécile. Le facteur temps, simplement faire savoir qu'il y a un projet autour de cette halle. Oui, Evento nous a permis au moins de le crier haut et fort. On a pu donner des rendez-vous aux associations. On savait que du 6 au 16 octobre 2011, on s'y retrouverait et qu'on pourrait élargir un petit peu tout ce qu'on a défriché ensemble. Donc oui, pour nous, c'est une vraie super rencontre.
Une super rencontre pour la Halle des Douves. Peut-être Roland Pinheiro pour Intensité. Est-ce qu'effectivement, il vous apparaît, vous, qu'un événement de la portée d'Evento, c'est un levier, finalement, sur lequel on peut s'appuyer pour développer une action qui est issue du terrain?
Alors, tout d'abord, je dois amener un petit rectificatif. Je ne suis pas la présidente du Centre social et culturel. Je suis administratrice, ce qui est déjà pas mal. Quand nous avons eu la rencontre avec Michelangelo Pistoletto, alors que nous nous croyons complètement évincés d'Evento, nous avons surtout travaillé justement sur cette participation que nous voulions très forte et qui fait partie du projet d'agrément que nous sommes en train d'écrire, du projet d'agrément 2012-2015 qui sera présenté à la CAF avant la fin de l'année. Et nous nous sommes saisis, oui, de l'opportunité d'Evento pour agir auprès des habitants, pour essayer de les motiver, pour qu'ils donnent leur avis sur un projet urbain. Nous avions déjà eu des concertations sur la salle des fêtes qui n'avaient pas abouti. Et là, je pense que nous allons essayer de tenir bon, c'est-à-dire que ce n'est pas que sur la période d'Evento que nous allons travailler, mais continuer dans l'avenir à faire participer les habitants. Pour cela, nous avons également fait le marché de Grand Parc pour parler aux habitants, pour leur dire qu'ils avaient le droit de donner leur avis sur un projet. Une concertation va être menée avec la mairie pour la réouverture de la salle des fêtes, mais nous ne voulions pas que cette concertation soit quelque chose de comment dirais-je, plaqué, mais agir vraiment avec tout le monde.
Stéphane Marolo du Centre social Le Grand Parc. Alors, ne pas plaquer des choses, hein, travailler plutôt sur la profondeur. Entre ce plaquage d'un événement qui, même s'il est bien intentionné, arrive quand même sur une temporalité très courte, et au contraire, le travail que tu mènes toi ici, qui est sur une temporalité de permanence beaucoup plus longue, comment arriver à trouver des passerelles, Stéphane Marolo?
Oui, peut-être préciser d'abord qu'un centre social seul, quelle que soit sa capacité à mobiliser les habitants, puisque c'est sa vocation première, ne peut absolument rien réussir en termes de transformation sociale s'il ne s'appuie pas aussi sur un partenariat. Donc ça, je le rappelle vraiment fortement. Le premier acte qu'on a posé lorsqu'on a rencontré quelques difficultés sur la manière dont Evento allait prendre place sur ce quartier, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on s'est réunis entre partenaires, qu'on a très vite essayé d'associer les habitants à cette démarche. Le centre d'animation du Grand Parc a joué un rôle important. La bibliothèque du Grand Parc a joué un rôle important. MC2A a joué un rôle important pour qu'on puisse déjà avoir une posture commune, pour reprendre ce que disait Geneviève tout à l'heure. Donc, cette question de l'opportunité d'Evento, c'est exactement comme ça qu'on l'a appréhendé. Il y avait deux postures, on va dire trois postures même possibles. On accueillait Evento à bras ouverts et puis on prenait ce qu'on nous donnait. Ou bien on était dans une posture défensive en considérant qu'il s'agissait de quelque chose qui était de l'ordre de la communication municipale. Ou alors on prenait une position intermédiaire. Et c'est-à-dire qu'on était force de proposition au travers d'Evento. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Et je crois qu'il y a un certain nombre de résultats qui ont été obtenus déjà. C'est-à-dire, par exemple, le fait qu'on ait eu la mairie qui s'est prononcée pour la première fois officiellement sur l'ouverture décidée hein, de la salle des fêtes. Donc ça s'est fait pendant Evento et ça s'est fait suite à l'ensemble des actions qu'on a pu mener en termes de mobilisation. Je le disais hier soir quand on était à Bègles, la question c'est d'être en mesure de prendre la main, c'est-à-dire d'être le premier à intervenir.
On va reparler si tu veux bien de ces stratégies hein, de la participation justement, et entre autres prendre la main et ne pas forcément laisser les questions émerger uniquement des technocrates. Sur les modalités de consultation mises en œuvre pour faire émerger une démocratie réelle, au-delà des représentations et de l'appropriation de la chose publique par une classe politique, je vous propose qu'on écoute un deuxième son enregistré par Nelly Fleischer, il y a quelques jours, où l'on entend la mise en travail, d'une réunion de travail, en fait, du collectif du Grand Parc en vue de la déclaration d'intention que l'on entendra, je crois, ce soir.
La question que je me pose, c'est les décisions de la ville quant au calendrier de ces consultations. Parce qu'effectivement, oui. Là, il joue le mort.
Oui. Oui.
Voilà. C'est sûr qu'il laisse passer l'évento, ça bouillonne, les pétards, les fumées, les machins, de ce qui est cela. Et après, ils vont y aller. Et effectivement, le jour où ils y vont, effectivement, comme ça a été dit, ils vont inviter la population... effectivement, la mairie annexe pour causer de cette histoire-là. Et ce jour-là, on ne s'inquiète pas, ils vont, les militants de la droite, ils seront là dans la salle pour préparer, pour savonner le plancher. Donc effectivement, il n'y a pas tort. Tu amènes l'urne qui est forte de 700 cartes, ça représente quand même,
d'accord,
mais sans là, être des statistiques scientifiques, ça représente quand même un courant d'opinion.
C'est pas ce que j'ai dit.
Nous, on
s'appuie là, pas. Je vais finir. On s'appuie pas là-dessus. Mais après, sur la force symbolique. Pardon.
Non. Mais c'est. J'aime bien cette discussion parce que ça le mérite au moins de la familiarité, la solidarité dans laquelle on travaille. Ça, c'est très intéressant. Effectivement, tu. Là, parce que l'urne, elle est quand même, c'est symbolique. C'est pas par hasard qu'on a mis une urne ce jour-là.
Absolument.
Trois urnes. Absolument. Les trois urnes sont rentrées dans une. Ah, c'est quand même intéressant aussi. Elles sont là. Ça, on ne peut pas les enlever. Et elles sont pleines, ça a été dit. Elles sont pleines. Alors, effectivement, quand on dit que ce n'est pas scientifique, ce n'est pas comme les primaires socialistes ou d'accord. Mais c'est quand même la démocratie qui est en marche, quand même. C'est un processus démocratique qui est en marche. Elle est là, l'urne. Et voilà. D'accord. Après.
C'est la parole de
Régoire. Isabelle.
Mais oui, mais c'est symbolique.
Isabelle.
Oui. Moi, je voulais juste revenir à ce que disait Stéphane tout à l'heure. Tu as employé le mot résigné. Oui. Alors moi, je vais vous dire la vérité. Quand j'ai appris l'histoire des cartes postales, enfin, quand on me les a amenées, l'urne, alors j'ai trouvé ça super léger, voire utopique. Je me suis dit, oula, d'accord, j'y vais, je le fais, je motive les gens à écrire, mais je trouvais ça totalement utopique. Il se trouve que les gens ont participé, que quelque part ça pesait quand même. Ça pesait, et puis il y a eu du monde. Il y a eu du monde, donc vive l'utopie. Et moi je pense que le combat continue, je ne suis pas résignée, je me dis juste que a réussi à faire quelque chose. Moi au départ j'ai trouvé ça
pour redonner de l'utopie aux jeunes.
Au bout du compte, ça a marché quoi, et je pense que ça...
Il faut se nourrir d'utopie.
Ben oui. Donc, du coup, c'est intéressant aussi ce genre de discussion de pouvoir poser quelque chose, même si moi, fondamentalement, je me dis que le côté obscur de la force sont beaucoup plus puissants que nous et que c'est pas avoir du mal. Mais le fait de se poser, d'écrire des choses, ça peut permettre. Oui, ça, c'est une protection, ça nous permet aussi. Et puis, en sachant que pas mal de quartiers, quand même, en menant leur centre, leur salle des fêtes, et pourquoi pas le Grand Parc, quoi. Tant plus que nous, c'est même pas à construire, c'est juste à rénover et, à continuer quoi, à faire.
Ou à démolir.
La raison du petit succès, c'est peut-être un détail, mais c'est l'urne officielle, etc. Une vraie urne qui a mené quelque chose de complètement solennel.
Ça aurait pu faire peur.
Ça aurait été très important.
Ça aurait pu faire peur, peut-être.
Ça aurait pu faire peur, oui.
Alors on va reparler dans quelques secondes de la symbolique de cette urne et du contexte de cette réunion de travail. Mais cette urne, elle a été alimentée par un peu plus de 700 cartes. Et on a avec nous Jérôme Laborde, qui va peut-être nous lire quelques-unes de ces cartes qui étaient placées dans cette urne. Jérôme.
Il serait bienvenu qu'une partie de la surface disponible soit réservée pour accueillir des repas de famille, par exemple, comme cela existe souvent dans les communes rurales. Je garde un souvenir précis de l'utilisation de cette salle pour des réunions publiques ou des spectacles. Le principal est la réouverture de cette salle, à disposition de différents besoins culturels, sociaux, familiaux. D'un point de vue esthétique, je propose de conserver le fronton et la mosaïque de la façade principale en l'état. Et d'un point de vue fonctionnel, qu'elle retrouve sa fonction première. Je fais partie d'une association de solidarité internationale et j'aimerais pouvoir contacter d'autres assos du Grand Parc, maison des associations, dans cette salle des fêtes. Une partie ouverte à des jeunes. La nuit, pour le moment, ils se réunissent sur les marches de l'église de la Trinité jusqu'à 3 heures du matin, seul lieu éclairé. Ce serait bien que cette salle, unique à Bordeaux, soit rendue utilisable et remplisse sa fonction originelle. Au-delà de la nécessité d'une grande salle de spectacle sur les quartiers nord, il serait aussi souhaitable qu'une telle salle soit réellement accessible et utilisable par la population. Pendant les élections, on s'occupe de la salle des fêtes. Beaucoup de promesses. Rien n'est fait depuis 20 ans. Cela serait formidable d'avoir un centre culturel, théâtre, conférences, cinéma. Car à Bordeaux, dans les quartiers, il faut une voiture pour aller à Mérignac.
Merci Jérôme. Quelques-unes des cartes, des 700 cartes qui étaient placées dans cette urne, urne, objet symbolique s'il en est. Quand on déclare aujourd'hui moribonde la démocratie représentative, qu'on se complaît de dire que les élections sont aujourd'hui désertées par les citoyens, que la politique ne les intéresse plus, voilà l'exemple qu'une urne peut réellement porter une parole citoyenne. Alors peut-être sur l'enjeu de cette consultation, Stéphane, Roland, Stéphane ?
Oui, je crois que surtout c'était l'occasion de rappeler à des personnes qui n'ont jamais même connu cette salle ouverte, puisque ça fait quand même plus de 15 ans qu'elle est fermée, mais qu'elle est là, présente sur le quartier. On passe devant comme devant un fantôme. À l'époque où la piscine du Grand Parc était fermée, elle aussi, c'était quand même assez particulier d'entrer dans ce quartier hein, par le cours de Luz. Hein, on avait l'impression d'entrer dans une ville morte. Alors, il y a eu déjà un certain nombre d'évolutions, et là, il reste cette salle. Donc, la dimension symbolique de l'urne, bon, elle est simple. Il s'agit évidemment d'interpeller là, le politique. Bien sûr, l'une des choses qu'on a défendues et qu'on défend, c'est certainement pas d'arriver, en tout cas, dans l'état actuel des discussions qu'on a avec les habitants, c'est pas d'arriver avec un projet ficelé. On souhaite respecter le processus de consultation ou de concertation que met en place la ville. Ce qu'on veut, c'est l'investir et faire en sorte que les personnes qui vont y aller puissent avoir la capacité de s'y exprimer. Donc il y a tout un travail de fond, effectivement, qui ne se fait pas en quelques semaines, puissent avoir un certain nombre de connaissances et de compétences. Donc ça veut dire qu'il faut être capable d'avoir des connaissances techniques au niveau de l'architecture, etc. Donc il s'agit d'amener les populations à passer de l'intérêt individuel à l'intérêt collectif. Ça peut se faire dans un processus démocratique traditionnel, pour peu que les personnes qui mettent en œuvre cette concertation sentent que derrière, il y a une certaine pression. Hein, il y a quand même une dimension aussi de rapport de force à installer. Mais il ne s'agit pas de l'installer à côté, il s'agit de la faire pénétrer cet espace démocratique traditionnel.
Tactique et stratégie pour non seulement porter une parole, mais faire en sorte de l'activer, qu'elle s'impose aux décideurs, malgré les atermoiements et parfois les rideaux de fumée, dans un instant. Stratégie de résistance, la première consiste peut-être à infiltrer les espaces institutionnels de consultation, au fond, plutôt que de leur tourner le dos. Alors, sur cette nécessité d'être présent dans le dialogue institutionnel, malgré toutes les réserves qu'on peut émettre sur la sincérité des institutions ou sur leur compréhension des enjeux locaux, sur cette nécessité d'être présent sur les espaces de consultation, de participation, tels qu'ils sont offerts par les institutions. Peut-être Yvan Détraz, du Bruit du Frigo, qui vient de nous rejoindre il y a quelques minutes. Bonjour Yvan.
Bonjour. La nécessité d'être présent sur les espaces de consultation officiels.
De répondre à leurs invitations, de ne pas tourner le dos forcément à ces invitations.
Alors, nous on leur tourne un petit peu le dos, hein, faut le dire. En tout cas, à Bordeaux, Nous, on travaille sur des contextes où on nous invite, où forcément on va sur ces espaces-là, mais d'ailleurs on les crée aussi nous-mêmes. On s'y intéresse, évidemment, quand on décide d'aller travailler sur des contextes, je reviens, enfin, on est là, on est à Bordeaux, sur des contextes où on choisit d'aller, donc effectivement on va s'intéresser à ce qui existe en termes de processus et de procédures. Après, on n'a pas forcément... on y a été, hein, je mentirais en disant qu'on tourne le dos à ça, mais non, on a été voir quand même, notamment sur certains quartiers où on a un attachement assez important, on a été voir ce qui s'y passait, on a très vite compris qu'on n'avait pas beaucoup de place, nous, en tout cas là-dedans, et qu'il fallait inventer autre chose à côté, ailleurs, de complémentaire, pourquoi pas. Nous, on s'évertue plutôt à proposer à d'autres cadres pour impliquer les gens.
Déception, donc, quelque part, finalement, par rapport à ces espaces de participation, de concertation, tels qu'ils sont offerts par les institutions. Anne-Cécile ?
Et du coup, on se le disait hier, parce qu'on était pour certains hier soir ensemble, mais là-dessus, ça me fait penser à des tactiques comme Olivier de Mangea parle à la Halle des Douves. Et nous, c'est pas vraiment, effectivement, comme le dit Yvan, notre manière de fonctionner. Mais je pense qu'on peut presque déjà plus parler de tactique que de stratégie. Et alors, ce qu'il fait, lui, c'est que donc, il se réunit avant avec les gens qui sont intéressés par le quartier ou l'endroit. Là, c'était la Halle des Douves. Lui, il est d'une formation d'architecte et d'urbaniste. Donc, il drive ses groupes de réflexion avec d'autres. Et après, il s'infiltre, mais très pragmatiquement, c'est-à-dire que souvent dans les réunions de concertation sont des petites tables où à chaque table, il y a des représentants des villes qui sont chargés de faire des rapports et d'amener finalement doucement, parce qu'eux aussi se sont réunis entre eux pour savoir ce qu'ils avaient envie et faire ressortir en tout cas l'intention de la ville. Et ben, eux, ils font pareil, ils se répartissent dans les tables et ils jouent le même jeu en fait. Et ils essayent d'amener là où eux, ils ont réfléchi. La question que du coup... moi, je me pose, c'est que quand on arrive dans ces instances de concertation, est-ce que c'est déjà pas trop tard ? Et je réponds juste à la question de la tactique. Il y a des projets vraiment où on a eu des heureuses surprises et puis il y a des projets où on se casse le nez. C'est toujours de grandes désillusions, je pense, pour nous et pour les gens avec qui on travaille. Et je pense qu'en vrai, ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a pas de potion magique, en fait, mais il y a des contextes. On remarque qu'il y a des constantes, c'est-à-dire que il faut qu'il y ait une volonté politique à un moment donné, hein. Un endroit, un élu que ça concerne, pour ses propres raisons à lui, hein, que ça soit politique ou des fois humain, un attachement affectif au quartier, ça peut exister. Les élus, ils ont cette liberté-là aussi.
Ils ont un cœur.
Et puis aussi cette liberté de dire, moi je vais faire quelque chose dans ce quartier parce que je l'aime et que ma grand-mère, je ne sais pas trop quoi, mais ça arrive, un élu qui s'attache à un quartier juste pour une histoire affective. Et puis il faut une énergie aussi sur le terrain. Et que mine de rien, s'il n'y en a pas l'un et l'autre, ça crée de la désillusion et puis des fois on ne réussit pas en fait. Et selon les quartiers, ça change en fait.
François Poujardieu, peut-être pour répondre sur cette même question.
J'aimerais revenir juste sur la tactique, stratégie d'Olivier. C'est vrai qu'il est pragmatique, Olivier. C'est ce qui fait aussi, sans doute, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais sa crédibilité aux yeux des politiques. Mais en même temps, s'il fait ça, c'est aussi parce qu'il a tellement d'interlocuteurs à des échelons différents. Il y a tellement de services qui peuvent bloquer à certains moments, et puis d'autres, au contraire, qui sont très, très, très ouverts, très, très bienveillants. Et donc, on est obligé aussi de varier les postures. Mais c'est pas de l'hypocrisie. C'est tout simplement que si on ne fonctionne pas comme ça, tout reste bloqué. Alors après, il faut savoir que nous sommes tous très différents dans la manière de réfléchir sur ce lieu parce qu'on vient de pratiques différentes. Donc on ne tient pas la même posture et ni le même discours. Et on a parfois du mal à faire des synthèses. Mais en même temps, on sait que c'est ça qui est important, c'est de qu'on ne puisse pas toujours l'arrêter, cette synthèse, et qu'on puisse après ouvrir des perspectives aux habitants et aux autres associations.
Deuxième stratégie dans ces façons d'activer la participation, de se faire entendre des politiques, c'est, et tout à l'heure Stéphane Marolo avait commencé à l'aborder, c'est prendre la main. C'est ne pas attendre que les technocrates s'emparent des sujets pour venir après, de manière plus ou moins condescendante, venir en discuter avec les habitants. Alors sur cette nécessité, Stéphane, de tout de suite
porter les projets, les idées sur la place publique sans attendre que les politiques s'en emparent.
Oui, mais ça suppose la possibilité pour acteurs locaux et habitants de mettre en place ce qu'on pourrait appeler pompeusement, puisque on est à l'ère du pompeux, une veille sociale, un observatoire des territoires. Mais la question, c'est de savoir celui-là même, comment on le fait agir. Donc, l'une des idées qu'on aurait certainement à développer, par exemple, sur le Grand Parc, c'est cette dimension d'observation partagée avec les habitants. Alors, on a eu l'occasion de la vivre un peu au travers du diagnostic territorial qu'on mène, qui est censé être un diagnostic partagé. On a expérimenté un certain nombre de choses qui nous donnent le sentiment que ça peut fonctionner. Donc, prendre la main, c'est avoir une bonne connaissance des besoins, des enjeux. Ça, c'est pour reprendre ce que disait Geneviève. Donc, pour avoir cette connaissance-là, il faut être en situation d'observation, en situation d'écoute, d'ouverture, de veille. Donc, c'est un ensemble de postures à voir. Mettre en place des espaces dans lesquels on invite les habitants à s'interroger sur leur espace de vie, à aller eux-mêmes à la rencontre de leur propre territoire. Comment est-ce qu'ils agissent dans la ville, etc. Il faut qu'ils développent des formes d'expertise eux-mêmes sur l'ensemble des questions sociales, etc. C'est à partir de là que les sujets majeurs émergent effectivement des habitants, et c'est à partir de là qu'on peut faire des propositions. Et c'est là, et c'est à cette condition-là qu'on est en mesure réellement d'engager un travail participatif, parce que le sujet est mis à l'ordre du jour par les habitants eux-mêmes. Donc je pense que c'est penser les choses très très en amont pour que ça puisse fonctionner. Donc voilà.
Troisième élément de ces stratégies ou tactiques de la concertation que je vous propose à la discussion, c'est concertation mais pas compromission. Au fond, rester aussi en capacité de refuser l'inacceptable, de ne pas tomber dans les pièges, d'affirmer la résistance au baratin, à l'édulcoré, au jeu du cirque. Alors, à la fois, il faut répondre aux invitations, il faut les devancer, mais aussi, parfois, il faut aussi savoir répondre niette. Qui veut répondre ou qui veut s'exprimer sur cette nécessité en même temps de la résistance? Peut-être Anne-Cécile, on en parlait hier soir.
Elle n'est pas évidente, la question, parce que savoir comment tu résistes, déjà, il y a une histoire ici ou en France. C'est compliqué, et je pense qu'au frigo, on se pose tout le temps la question. Et hier, entre nous, on revenait sur l'histoire des formes artistiques que l'on crée, en fait. Et sur les codes, en fait. Aujourd'hui, si on se dit que si on reproduit les mêmes formes, c'est-à-dire les mêmes codes qui ressortent dans une concertation, une liste d'idées, je voudrais une fontaine, je voudrais... En fait, on reprend les mêmes mots qu'eux, et eux, du coup, eux, les autres, ils peuvent faire du copier-coller sur des idées, qui sont juste des idées pour l'instant, et faire un projet là-dessus, qu'eux, ils pensent, quoi. Et du coup, on se dit que nous, on porte un projet qui s'appelle Lieu Possible, qui parfois se permet d'imaginer à l'échelle 1, ça veut dire en vrai, de façon temporaire, des idées portées par des habitants. Et ça permet deux choses. Une première, c'est de faire preuve. Et je crois que résister, c'est aussi prouver de temps en temps. Ce n'est pas forcément que dire non, mais dire, mais regardez, ça existe, ça marche. Et puis, c'est aussi s'auto-évaluer tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des fois des choses qui marchent et puis il y a des choses qui marchent un peu moins. Parce que je reviens sur ce que tu disais, c'était peut-être pas tout à fait ces mots, mais on a tous des fantasmes de la participation, de ce qu'on voudrait pour le quartier. Je vais prendre un exemple où on a bossé à la commande d'une collectivité territoriale à Mérignac. Et dans un quartier, je le reprends souvent parce qu'il était vraiment flagrant, quoi. Tous les habitants de 2 à 83 ans voulaient une boulangerie. Parce que le quartier était coupé par la rocade et que du coup, très pragmatiquement, pour aller acheter une baguette, il fallait prendre le bus pour ceux qui n'avaient pas le permis. Et du coup, ça faisait le ticket de bus plus la baguette de pain. Et du coup, on a bossé avec un centre social qui est génial et qui s'est vraiment impliqué dans le projet. Et on se rend compte que s'il n'y a pas ce type de structure, de toute façon, on n'y arrive pas, nous. Et du coup, on a monté un aménagement assez large dans un parc où il y avait une sorte d'épicerie, où il y avait des baguettes de pain. Et en fait, ce qui a marché, c'était l'énergie sociale qui était dans l'épicerie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'habitants qui sont investis. Mais en vrai, la boulangerie, elle n'a pas marché. Ils sont toujours allés à Lidl à côté. Le Lidl est à côté. Et du coup, c'était se dire, à ce moment-là, réajuster le projet. et se dire bon ben il y a besoin d'un peut-être d'un commerce qui a une activité sociale mais pas forcément une boulangerie. Et je pense aussi résister, c'est montrer qu'on est capable aussi de réajuster nos propres désirs, nos propres et je dirais pas résister, c'est pas dire non, mais c'est prouver que ça peut se faire et qu'en plus on réfléchit et qu'on est capable de le remettre en question, se faire quoi.
Savoir remettre en question et se remettre en question. On arrive bientôt au terme de cette émission. On est ici dans la cité Grand Parc. Alors, à la fois, tout à l'heure, Stéphane Marolo, tu évoquais que la mairie avait acté le fait que la salle des fêtes, c'était vraiment une question récurrente depuis, je crois, de nombreuses années, que la salle des fêtes allait effectivement réouvrir ses portes avec une programmation. Alors, juste en quelques mots, dans quel délai, dans quelles conditions, comment ça va se passer, Stéphane Marolo?
Non, il n'y a aucun délai, aucune condition. Je crois que c'est pour ça que la mobilisation, on va la poursuivre, comme le disait Roland tout à l'heure. Il y a une parole politique qui a été donnée parce qu'elle a été forcée. Je crois qu'il n'y a pas photo. On a de ce point de vue-là acquis quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On parlait de pragmatisme. Nous, on s'appuie sur la parole. Hein. Ça a été dit, c'est fait, c'est bon. Hein. Donc maintenant, par contre, et on le verra ce soir à la présentation de la déclaration d'intention, il ne s'agit pas pour nous, je le disais, de proposer un contenu, hein, c'est hors de question. Par contre, la question de la gouvernance est posée. La question du processus d'élaboration et de concertation est posée dans cette déclaration d'intention. Hein, il ne s'agit pas pour nous de nous intéresser à l'objet salle des fêtes, mais de nous intéresser au processus démocratique qu'elle suggère. Hein, et là-dessus, on ne lâchera pas.
Stéphane Marolo, bonjour. On vient d'écouter le plateau que nous avons enregistré dans le cadre d'Evento à Grand Parc en octobre dernier. Et il nous semblait très important, comme on se l'était dit d'ailleurs en se quittant, de reprendre contact avec vous et de voir où en était le collectif de la salle des fêtes par rapport à ce projet de salle des fêtes de Grand Parc.
Ben, ça a pris sérieusement forme, en réalité. On avait un modèle de départ qui était de s'appuyer déjà sur un collectif déjà d'acteurs locaux qui ont tout de suite essayé d'associer quelques habitants. Et le principe de départ, c'était d'avoir une déclaration d'intention, c'est-à-dire des grands principes qui allaient nous guider tout au long de la démarche. Et ça, on s'aperçoit a posteriori que c'était une démarche très très importante. Pourquoi est-ce que ça avance, pourquoi ça a progressé? On a fait une grande soirée en fait le 14 décembre dernier au centre d'animation du Grand Parc et on a invité tous les habitants à venir nous rejoindre. On a fait une diffusion, la diffusion d'un film qui montrait une expérience participative en Russie. Donc c'était très original, assez surprenant pour les personnes qui étaient présentes. On a reposé les grands principes qu'on défendait par rapport à l'avenir de cette salle des fêtes, sachant que pendant Evento, à l'époque où on s'est rencontrés au mois d'octobre, on avait déjà acquis la certitude que la ville avait l'intention de réouvrir. Il s'agissait de pouvoir s'approprier une démarche collective à partir de là. Et le 14 décembre, on s'est trouvé avec 75 personnes présentes.
Joli.
Donc on était ravis, déjà, pour commencer.
Donc vous avez, comme tu nous le décris, continué votre dynamique. Cette dynamique-là, de toute façon, je crois que vous l'avez même inscrite dans votre projet de centre social et que vous êtes en train de la partager de façon ample et nombreuse.
Oui, c'est-à-dire qu'on est, toujours sur les grandes questions paradoxales dans lesquelles se trouvent les centres sociaux par rapport à ce type de projet, puisqu'il s'agit à la fois d'être, de se positionner en leader, en porteur finalement d'une initiative qui soit la plus collective possible dans les grands principes de l'éducation populaire. Mmh. Et pour ça, ça suppose aussi de savoir être à une place qui laisse la place aux autres, hein, c'est-à-dire ne pas occuper tout le terrain de l'initiative. Donc c'est toujours un petit peu cette difficulté de positionnement dans laquelle on peut être, mais c'est en même temps passionnant. On s'est tout simplement appuyé finalement sur une chose très très simple et très classique, c'est-à-dire que lors de cette grande réunion, on a dit, ben, en gros, voilà, l'idée à partir d'aujourd'hui, le 14 décembre dernier, c'est de constituer un collectif. Est-ce que vous êtes partant, oui ou non ? On a donné les grandes lignes de travaux qui étaient à mener sur la dimension technique, sur la dimension de gouvernance et sur la dimension de vocation de cette future salle des fêtes. Et les personnes se sont positionnées et en fait on a constitué un pool en fait de travail, une équipe de travail de 25 personnes, une quinzaine d'habitants et une dizaine de représentants associatifs.
Alors ce que vous questionnez grandement, c'est le thème de la gouvernance de cette future salle des fêtes réouverte, à savoir la façon dont la programmation de cet espace-là pourrait se faire. Et en quelque sorte, en réclamant une gouvernance partagée dès maintenant, vous êtes en train de faire l'expérience de ce que pourrait être une gouvernance partagée, non ?
Oui, c'est-à-dire que on se rend compte que, et ça c'est quelque chose qu'on apprend aussi au fur et à mesure, on se rend compte que la participation c'est quelque chose qui se vit en fait, hein. C'est quelque chose qui, il faut à un moment donné quitter la dimension théorique ou dogmatique de la participation et puis passer à l'action. Et quand on passe à l'action, on se rend compte effectivement des, à la fois des limites qui s'offrent à nous et auxquelles il faut se confronter, et ça c'est déjà des espaces d'apprentissage et puis de développement de notre propre citoyenneté. Chacun devant être respecté dans son rôle, y compris les décideurs que sont en l'occurrence les élus de la ville. Mmh. Néanmoins, comme tu le dis assez justement, c'est déjà une forme quand même de rapport de force, mais que nous, qu'on a voulu positif, c'est-à-dire axé sur la proposition, qui s'engage. Il est évident que si on laisse uniquement la dimension de concertation municipale se mettre à l'œuvre et en mouvement, les modèles de gouvernance qui suivront, de fait, s'inspireront de cette dimension descendante et verticale, quoi. Et là, c'est ce qu'on arrive à commencer à faire bouger comme ligne, mais je vais te le dire peut-être après, c'est pas aussi simple que ça quand même.
Alors, qu'est-ce qui n'est pas simple ?
Alors, on va commencer par les éléments positifs. Cette mobilisation et ce groupe de travail qu'on a constitué, il fonctionne aujourd'hui. J'ai ce soir la 9e réunion du collectif SDF, et donc on est sur cette dynamique-là. Néanmoins, nous, on souhaitait quand même s'il y avait cette urgence de réouverture de la salle, prendre le temps. Mmh. Et c'est ici que la ville a essayé de reprendre la main et a proposé un calendrier de concertation au niveau de la mairie, donc en dehors, bien en dehors du travail que nous menons dans le cadre du collectif. Démarche municipale qui a toute sa légitimité. Néanmoins, ils ont accéléré énormément le calendrier et ont proposé, on va dire, un mode de concertation, je dirais, très très accéléré, avec trois rencontres en 3 mois et un système de table ronde avec les habitants extrêmement dirigé, avec le système brainstorming, post-it, etc., qu'on connaît, mmh. qui est assez à la mode aujourd'hui dans les ateliers de concertation.
Alors, ça, petite parenthèse, sachant que on avait déjà remarqué, hein, que la concertation à Bordeaux n'était pas pratiquée tout à fait de la même façon qu'à Marseille. À Marseille, la concertation, c'est une réunion d'information en présence des élus et des documents officiels, une réunion réunissant les habitants, point. Donc, vous avez un tout petit peu, malgré tout, d'avance sur nous, sur les principes de concertation, puisque vous avez droit à 3 réunions que tu décris. Je voulais juste faire cette parenthèse-là pour déjà dire qu'il y avait des différences dans les principes de concertation institutionnelle d'une ville à une autre ville. Et je te rends la parole.
Alors, ce que je crois de ce côté-là, c'est qu'il faut reconnaître que le service qui est en charge de ces démarches de concertation commence un peu à être rodé. C'est le service aménagement de la ville de Bordeaux. Il faut leur rendre cet hommage-là. Il y a quand même effectivement un effort. On peut pas dire qu'on est dans quelque chose de complètement artificiel. Et ça, c'est quand quand même une nouveauté parce que les précédentes concertations auxquelles on a eu affaire il y a à peu près 4-5 ans, concernant encore une fois la salle des fêtes, avaient, c'était des flops absolus, les décisions étaient déjà prises, étaient déjà calées, comme ça se passe dans beaucoup d'endroits. Donc il y a effectivement une évolution. Mais cette évolution, elle est aussi possible parce que sur les territoires, il y a des collectifs qui sont en mesure de s'organiser et aussi de négocier le rythme à laquelle va se dérouler la concertation. Mmh. Et là, c'est l'un des points sur lesquels on est actuellement, c'est qu'on est en train de demander finalement aux services en question de prolonger cette démarche de concertation. Donc on ne sait pas encore aujourd'hui si on va obtenir gain de cause. Mais tout l'objet, toute la difficulté, c'est ça, c'est de réussir à faire comprendre à la ville qu'il y a, oui, une pression qui peut être portée par des habitants pour que des choses se réalisent, c'est-à-dire qu'on arrive à atteindre l'objectif, là, par exemple, de l'ouverture de cette salle des fêtes, mais que néanmoins, tout le processus a aussi son importance et qu'il ne s'agit pas, à partir du moment où la décision est prise de réouverture, de brûler des étapes. Mmh. Et finalement de produire quelque chose qui pourrait être une coquille vide derrière.
Quel est leur argument pour cette non prise en compte de vos propositions de calendrier ? Est-ce qu'il y en a ?
Alors oui, c'est-à-dire que ce sont des échéances essentiellement politiques, c'est-à-dire qu'en gros, je caricature très légèrement, le maire à un moment donné dit « bon, ok, on y va, on lance la démarche ». Mais moi, j'ai besoin d'avoir le résultat de la concertation à telle date, parce que politiquement, dans mon calendrier politique, c'est quelque chose qui me convient, parce que je veux pouvoir en faire l'annonce. Je veux pouvoir aussi imaginer un calendrier de réalisation du programme, ainsi que des chantiers divers et variés qui vont amener à la rouverture effective, à une date qui corresponde à des enjeux politiques qui sont les enjeux d'élection, hein, essentiellement. Donc en général, ce sont des arguments, les arguments temporels sont vraiment liés à un calendrier politique.
Et comment vous répondez à ça ?
Ben nous, on répond à ça, et l'argument qu'on va certainement développer, qu'on va travailler ce soir et qu'on va développer lors du prochain atelier, vont s'appuyer sur les choses, une étude assez pragmatique de l'histoire déjà de la salle, essayer de repartir de choses concrètes. Qu'est-ce qu'on repère ? On a une salle des fêtes qui a fermé il y a bientôt 20 ans, et à chaque fois qu'on essayait de comprendre quelles avaient été les raisons de la fermeture de cette salle, on avait des explications diverses et variées, aucune n'étant tout à fait satisfaisante. Et ce qu'on a pu repérer en étudiant l'histoire de cette salle, c'est qu'en réalité, c'est la gouvernance de cette salle à l'époque qui justement faisait défaut. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de portage collectif, pas de portage local de cet espace-là. Et finalement, c'était un espace qui était géré comme on gère l'allocation de salles associatives ou de salles municipales pour des réunions, etc. Il n'y avait pas un fil conducteur, un projet artistique derrière. Donc, et ça a été donc un échec, puisque la salle a fonctionné 20 ans, avec des moments et des temps forts, très importants, parce que ça a été une salle rock, en particulier très très reconnue, y compris nationalement. Néanmoins, l'ancrage local n'était pas là. Et pour construire un ancrage local, il faut élaborer une gouvernance qui implique les uns et les autres, y compris bien sûr les habitants. Et cette construction-là nécessite du temps. Donc c'est l'argument qu'on va essayer de développer pour leur faire comprendre que derrière, c'est eux qui en tireront une plus-value véritablement dans la durée.
Stéphane, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les jours à venir ?
Oh, c'est surtout de l'énergie, parce que...
Bon, mais ça, vous en avez.
Ouais, continuer à avoir de l'imagination. C'est aussi être capable de durer, hein. C'est-à-dire que ce qui est très, très important, et toute la ce qu'on apprend, si tu veux, c'est comment faire en sorte que les personnes qui s'impliquent et qui s'engagent dans une action, sachant que ça demande beaucoup d'énergie et de travail, puissent le faire aussi avec énormément de liberté. Parce que, et ça, c'est extrêmement important dans la notion d'engagement, il y a quelque chose d'un petit peu tordu. C'est-à-dire qu'en gros, on dit aux personnes, bon, vous vous engagez, mais attention, vous allez en baver. Hein. Ça va être dur, hein, ça va être difficile. Ce que je crois, c'est qu'il faut faire comprendre aux personnes que oui, ça va être difficile, oui, ça va être long, mais que néanmoins, si on est suffisamment nombreux et qu'on reconnaît les compétences de chacun, certaines personnes vont pouvoir souffler, vont pouvoir prendre du recul à certains moments, vont pouvoir s'investir sur une compétence particulière pendant une durée limitée. Et c'est vraiment rappeler aux personnes que ce qui est fort, c'est pas chacun des individus, ce qui est fort, c'est le collectif. C'est le fait que le collectif, à un moment donné, prend le dessus sur les difficultés individuelles. Et finalement, compense les difficultés quand elles apparaissent, quoi. Donc c'est durer, et pour ça, déculpabiliser les personnes par rapport à au sentiment qu'ils pourraient avoir de ne pas avoir suffisamment d'énergie ou de compétences, justement. Donc c'est l'énergie du groupe qu'il faut travailler. C'est très intéressant. Ça.
Et on va essayer de transmettre et de faire partager ce que tu viens de raconter aux habitants de Marseille avec lesquels on travaille. Merci beaucoup à toi, Stéphane. Je pense qu'on
remercie beaucoup aussi.
Je pense qu'on peut rester en lien et puis considérer qu'on a une espèce de feuilleton comme ça entre Bordeaux et Marseille.
Eh bien, bonjour à Marseille. Alors bonjour à tous les Marseillais et puis bon courage dans toutes les initiatives d'habitants et d'associations. Voilà, gardez le cap.
Ouais, vous aussi et on se rappelle.
On se rappelle.
Merci, Stéphane.
Au revoir.
Du 2 au 8 avril, retrouvez la thématique Utilité publique sur les ondes et sur le www.radiogrenouille.com.